Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, cette semaine, 5 rencontres autour des enfants, les enfants au pluriel, et non pas l'enfant au singulier. Aujourd'hui, avec Martine Cour pour la sociologie des enfants. Les enfants, ce n'est pas un pluriel anodin. Peut-être que l'enfant en général est un cadre indispensable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi la diversité des enfants. Aujourd'hui, je suis très heureux d'en parler avec Martine Cour, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Clermont-Auvergne et auteure notamment d'un volume dans la collection Repères à la découverte intitulé justement « Sociologie des enfants ». Bonsoir Martine Cour.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir discuter des enfants. J'avais dans l'idée justement pour cette semaine de parler des enfants au pluriel et j'ai été vraiment confirmé par votre livre où dès l'introduction dans la sociologie des enfants, vous dites qu'il faut, il ne faut pas parler, en tout cas pas seulement, de l'enfant au singulier. Vous dites page 4, sociologie des enfants, à la différence de ces approches s'intéressant à l'enfant au singulier, cet ouvrage entend faire apparaître le caractère pluriel de l'enfance. Ce pluriel, donc, les enfants, vous le revendiquez, Martine Cour, et c'est l'objet aussi de votre approche sociologique.
Oui, tout à fait, et j'en profite pour vous remercier tout de suite de m'avoir invité et d'avoir du coup permis de donner voix à la sociologie sur cette question des enfants, sur laquelle la sociologie est assez rarement convoquée. Et effectivement, un des enjeux du livre, c'était de défendre cette approche plurielle des enfants, notamment à côté, pas forcément contre, mais à côté de l'approche psychologique, qui est plutôt dans une démarche de mettre à jour les invariants de l'enfance, de dégager des processus présentés à tort ou à raison comme universels dans le développement de l'enfant à l'intérieur d'une tranche d'âge donnée. Donc les stades du développement chez Freud, etc.
Ou bien aujourd'hui la psychologie cognitive, le cerveau qui existe aussi, comment il fonctionne, mais pour vous effectivement ça suffit pas. Le pluriel, il indique aussi d'autres dimensions de nos vies, en fait.
Voilà, l'idée, c'était un des apports de la sociologie, ça peut être de contribuer à faire réapparaître la diversité des enfants et de l'enfance, diversité dans le temps, diversité dans l'espace, diversité en fonction de l'origine sociale, diversité en fonction du sexe aussi, évidemment.
Alors, pour vous, Martine Cour, on va y revenir, jusqu'où va cette diversité? C'est-à-dire, au fond, est-ce que même on peut penser, comme aussi on a l'impression dans un volume récent auquel vous avez participé, qui me paraît très important, Enfance de classe, dirigé par Bernard Lahir, est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire qu'au fond, on a l'impression qu'il y a quelque chose de commun entre les enfants, et en fait, il y a des différences qui font qu'on n'a même pas, on ne devrait même pas employer peut-être le même mot, enfin en tout cas, les enfants, ce serait... Il y aurait des différences presque de nature, des différences vraiment très profondes entre les enfants, socialement en tout cas.
Alors en même temps, je veux pas tordre le bâton dans un sens tel que ça n'aurait plus de sens, c'est-à-dire que l'enfance, ça existe. L'enfance n'est pas qu'un mot pour reprendre cette expression et pour le coup l'inverser. L'enfance n'est pas qu'un mot, ça existe. C'est une construction sociale, c'est une construction historique dont j'essaye de récapituler différentes étapes dans le livre. De fait, être enfant dans nos sociétés aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a des droits et des devoirs spécifique, que l'on est traité d'une certaine façon par les adultes, qu'on est pris en charge par un certain nombre d'institutions spécialisées, alors évidemment l'école, mais il y en a beaucoup d'autres, qu'on dispose par exemple du droit à l'oisiveté, du droit au non-travail, c'est une particularité de l'enfance qui est récente historiquement. Donc l'enfance n'est pas qu'un mot du tout, c'est une réalité sociale qui existe.
Mais c'est très intéressant d'ailleurs dans votre livre, Martine Cour, parce qu'il y a un premier chapitre historique. Et on pourrait dire, ça va encore relativiser. On va parler tout à l'heure de la question de la relativisation et aussi de pourquoi est-ce que la sociologie des enfants rencontre des adversaires politiques aussi virulents, comme s'il y avait une menace sur l'enfance quand on étudie les différences sociales entre les enfants. Mais dans votre chapitre historique, on pourrait penser, il y a vous disiez des variables dans le temps et dans l'espace, il y a encore un facteur de relativité. En fait, vous montrez que, justement, historiquement, l'enfance se constitue comme une unité, comme un ensemble, que c'est récent et que là, vous venez de le préciser. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme l'enfance qui est un tout. Et puis, c'est après qu'intervient la sociologie qui distingue. Mais l'enfance, ça reste un ensemble cohérent, et même s'il est construit historiquement. Mm-hmm. Au contraire même, mm-hmm. C'est ça qui le constitue.
Tout à fait. C'est un âge de la vie qui existe non pas uniquement ou non pas principalement. Enfin, en tout cas, c'est le point de vue de la sociologie en raison des données biologiques des enfants. L'enfance, c'est pas simplement, et pour un sociologue, c'est pas principalement le fait qu'on a une petite taille, une dentition incomplète, une incapacité à se reproduire, etc. C'est pas principalement ça, l'enfance. C'est, pour un sociologue en tout cas, d'abord et avant tout, donc, je disais, le produit d'institutions sociales. Donc, ça existe en tant que tel.
Et puis,
tel.
C'est récent, ça a été reconnu comme tel récemment. Enfin, en tout cas, ça ne l'était pas dans l'Antiquité. Vous montrez très bien que, par exemple, peut-être dans l'Antiquité, c'était la famille qui était l'entité, dont les enfants étaient des éléments parmi d'autres, mais il n'y avait pas l'enfance comme régime particulier à respecter comme tel dans toutes les familles. Mmh. Au contraire, l'enfant était la propriété de la famille, une sorte d'élément qu'on n'isolait pas, en tout cas. Mmh. Et donc, cette construction historique de l'enfance, c'est ce qui permet aussi de la protéger. C'est pas juste une relativisation.
Non, bien sûr. C'est les travaux de Philippe Ariès classique qui montre. Alors ça a été repris, revu ensuite, mais qui montre que pendant très longtemps, une grande partie de l'ancien régime, les enfants n'étaient pas séparés des adultes. Ils vivaient avec eux beaucoup plus étroitement qu'aujourd'hui. D'abord parce qu'ils travaillaient très jeunes et que le travail des enfants se faisait à côté des adultes. Et puis aussi parce que dans les temps de loisirs, les loisirs n'étaient pas séparés. On pouvait emmener des enfants au bal des adultes, les emmener voir des combats d'animaux. Enfin, c'est des exemples que je donne. Donc la spécificité de l'ancien régime, c'était cette non-séparation des enfants et des adultes. Et ce qui se met en place donc à partir du XVIIe siècle, selon Ariès, c'est ce qu'il appelle une mise en quarantaine de l'enfance, c'est-à-dire une mise à l'écart des enfants
on
dans
isole
le temps.
Une sorte de sphère, et en principe pour les protéger. La quarantaine, c'est une image de protection médicale aussi, mais c'est en fait aussi une image d'enfermement. Mais en fait, l'expression de quarantaine est un peu ambivalente. C'est peut-être vrai. D'ailleurs qu'il y a cette ambivalence. Protéger, c'est toujours un peu enfermé, même encore aujourd'hui, mais quand même, les internats fermés, la quarantaine sociale, les enfants aussi à la Dickens. Aujourd'hui, on voit aussi l'aspect protection. On isole aussi pour protéger, parce qu'il y a une vulnérabilité. En tout cas, on reconnaît historiquement une certaine type de vulnérabilité.
Oui. Oui, on enferme et on sépare pour éduquer. On enferme et, enfin, en tout cas, on sépare. On enferme aussi pour soigner. C'est-à-dire que c'est aussi, le 19e siècle, c'est la création de tout un ensemble de lieux de soins spécifiques pour les enfants. Alors, est-ce que c'est pour protéger les enfants? Oui. C'est aussi pour protéger les enfants en tant que futurs adultes, en tant que futurs soldats, en tant que futurs travailleurs. C'est aussi la crainte de la dénatalité, de la crise démographique qui fait qu'on protège les enfants. C'est sans doute que c'est pour protéger les enfants en tant que tels, mais aussi pour les protéger les futurs adultes.
Il y a toujours cette ambivalence, en tout cas. Mais en tout cas, donc, quand on dit que la sociologie, parce qu'on va y venir, c'est notre objet, introduit des différences entre les enfants, des différences construites, des différences sociales, peut-être par opposition, comme vous le disiez, à la psychologie, et je vous fais intervenir dans cette semaine après deux psychologues, mais c'est justement pour les compléter. En fait, l'histoire aussi nous apprend que l'enfance n'a pas toujours été isolée comme telle, quand on veut naturaliser l'enfance, dire il faut protéger l'enfance, en fait, on s'inscrit déjà dans ce cadre où vous montrez qu'on est arrivé progressivement.
Tout à fait.
Ce que je veux dire par là, c'est que quand on oppose l'enfance, et qui serait un fait de nature, et les enfants tels que les construits, tels que la sociologie en montre la diversité, on est déjà dans un faux débat. En fait, il y a, pour diversifier les enfants, il faut déjà que nous ayons isolé l'enfance. Historiquement, socialement, nous sommes... Oui. Ça n'est pas un donné absolu on part et auquel la sociologie s'ajouterait.
Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il fallait effectivement que la catégorie d'âge existe, commence à exister, à prendre consistance historiquement, pour que apparaisse en tout cas au moins la possibilité de mettre à jour des diversités à l'intérieur de cette catégorie d'âge, tout à fait.
Alors, si on suit aussi votre approche, Martine Cour, et d'ailleurs, ça est apparu implicitement dans ce que vous aviez dit il y a un instant des époques antérieures, on voit que pour vous, ce qui définit les enfants, d'abord, alors j'allais dire justement, on va s'approcher vers les différences, mais des différences, mais là, d'abord collectivement, c'est un ensemble de pratiques. Au fond, là, vous avez cité, vous disiez, au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, il n'y avait pas de jeu spécifique, il y avait le travail, il n'y avait pas les enfants qui ne travaillent pas et puis les adultes qui travaillent. Aujourd'hui, donc, c'est au contraire, on peut dire qu'il y a des pratiques qui isolent les enfants. Cette approche par les pratiques, est-ce que c'est aussi fondamental pour vous, que les enfants soient définis par des pratiques concrètes, des pratiques sociales ?
Oui, alors ça aussi, c'est une manière de construire la question des enfants sociologiquement plutôt que psychologiquement. Ouais. Par définition, mon travail de sociologue et le travail de mes collègues ne consiste pas à prendre pour objet, en tout cas pas directement les états mentaux ou psychologiques, mais les pratiques des enfants, les pratiques qu'ils mettent en œuvre eux-mêmes et les pratiques dont ils font l'objet de la part des adultes. Alors pratiques de toutes sortes, culturelles, alimentaires, ludiques.
De langage.
De langage, évidemment. Voilà, et l'objet de la sociologie des enfants, telle que j'essaye en tout cas de la défendre, c'est de prendre, de s'interroger sur ces pratiques-là, sur les goûts des enfants, sur leurs centres d'intérêt, et de montrer leur diversité, comme on l'a dit, mais de montrer aussi, c'est l'autre pan peut-être de l'approche sociologique, l'autre spécificité, de montrer aussi que ces pratiques des enfants, ces goûts, etc., sont le produit d'une construction sociale, sont le produit très exactement des conditions matérielles et sociales dans lesquelles les enfants grandissent, le produit de leur socialisation, pour employer ce mot. C'est ça aussi une spécificité ou la spécificité de l'approche sociologique.
Parce qu'on a l'impression, en effet, Martine Court, que tout à fait intuitivement, hein, qu'un enfant, c'est à la fois... On a une image très naturelle, très biologique, c'est un petit corps vulnérable qu'il faut quand même empêcher de mourir. Hein. Peut-être que c'est quand même déjà une première pratique universelle, quand même liée à la vie. Mais c'est aussi l'être le plus souple, celui qui va recueillir des habitudes, qui va acquérir une langue et pas une autre au bout d'un certain temps, parce qu'il est dans un univers linguistique. Celui qui peut... historiquement, certains philosophes ont comparé l'enfant à une tablette de cire sur laquelle on peut imprimer n'importe quel contenu. Donc il y a cette double image de l'enfance qui reçoit des contenus sociaux, mais qui en même temps est un être vivant. Comment est-ce qu'on fait pour articuler ces deux visages, en fait, des enfants, de l'enfance ?
Alors, c'est l'objet de débats importants en sociologie, cette question-là, et en sociologie en général, mais en particulier chez les sociologues qui s'intéressent aux enfants, avec les deux approches, une approche... que je pourrais qualifier de durkheimienne, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais on trouve chez Durkheim l'idée de l'enfant page blanche. Je crois que l'image qu'il emploie, c'est celle de la page blanche, qui revient à celle de la tablette de cire.
Alors Durkheim, c'est celui par excellence qui pensait que nous sommes des êtres sociaux, et qui pensait que c'est le fondateur de la sociologie, un des fondateurs de la sociologie qui a été fondée plusieurs fois, mais à la fin du 19e siècle, et lui, il pensait vraiment que la société est ce qui s'impose aux individus, comme un tout qui s'impose à ses parties. Et donc, voilà, la page blanche, ça veut bien dire ça. Il y a quelqu'un qui va écrire et c'est la société, les institutions.
Voilà.
Pas seulement les parents ou les professeurs, mais
tout à fait.
Quelque chose de global.
Tout à fait. La société, effectivement, composée des parents, des enseignants, mais aussi des institutions qui organisent, par exemple, le travail des enseignants, mais aussi des lois qui disent ce que les parents peuvent faire ou non. Donc, c'est pas que des personnes, c'est aussi des institutions. Et donc, du côté de cet auteur-là, même si c'est en fait... un peu plus ambigu que ce que je vais dire ici, on a, en forçant un petit peu le trait, l'idée de que les enfants ne sont rien avant que la société, avec tous les guillemets qu'il faut, ne les forme, ne fasse d'eux ce qu'ils vont devenir.
Et que du coup, un enfant français du 21e siècle, un enfant anglais du 17e siècle, ou un enfant dans une autre partie du monde, en fait, n'ont presque rien de commun, finalement.
N'ont rien de commun, et l'enfant né aujourd'hui en France, placé dans l'Angleterre du 19e siècle, serait devenu tout à fait différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il serait devenu un petit enfant, une caractéristique typique de sa société.
Et ça, vous le pensez aussi, Martine Court, aujourd'hui? Donc peut-être que vous nuancez un peu ce diagnostic. Donc il y aurait des facultés biologiques, personne ne peut le nier, on a un cerveau, on a des mécanismes. Mais pour vous, ce sont des pages blanches, ce sont des dispositifs sans contenu a priori. qui ont des formes, disons, et puis les contenus vont venir, comme on a besoin de s'attacher à un parent ou à quelqu'un qui prend soin de nous, mais qui va venir s'occuper de nous, on ne le sait pas. Ce sera telle ou telle mère, tel ou tel père. Vous pensez un peu ça, qu'il y a des matrices biologiques, mais qu'au fond, le contenu est toujours historique, social?
Alors, de fait, personnellement et professionnellement, c'est ma position. Mais elle n'est pas la seule en sociologie. On trouve des sociologues qui vont défendre un point de vue qui est que la société, pour reprendre encore ce terme, ne fait que modeler, pas à la marge, modeler de manière importante, mais modeler un existant psychologique, un existant en termes de talent. Voilà, les enfants naissent avec...
avec des dispositions, des capacités individuelles.
Avec des dispositions naturelles qui leur sont propres, sur laquelle ensuite le social va intervenir. Alors, c'est vraiment deux positions, je les présente de manière caricaturale, mais c'est pas si forcé que ça comme présentation.
Mais je trouve que c'est très important, pardon de vous interrompre, parce qu'on dit souvent, est-ce que les sciences sociales sont des sciences? Est-ce qu'elles sont pas biaisées idéologiquement? C'est très important, comme vous venez de le faire. Je pense qu'une science est une science si elle explicite ses présupposés. Donc c'est très important de dire, il y a plusieurs positions, parce qu'il y a plusieurs présupposés. C'est ça qui définit aussi les sciences comme des sciences, quelles que soient les sciences, mathématiques ou sociologiques, Martine Cour.
Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas argumenter le pourquoi ma position, que je disais tout à l'heure, personnelle et professionnelle, me pousse vers la première approche. Je ne peux pas défendre de manière rationnelle cette position-là. Je dirais qu'on est dans l'ordre de il y a des choses de l'ordre de la croyance,
de l'hypothèse,
voilà. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est faire plus justice à ma discipline, en l'occurrence à la sociologie, que d'adopter cette position-là, parce que cette position-là me pousse, du point de vue professionnel, à ne jamais convoquer, ou en tout cas convoquer en dernier ressort, hein, c'est une formule de Pierre Bourdieu, ne convoquer qu'en dernier ressort l'idée ou la possibilité que si cet enfant-là fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il a tel gène, telle faculté naturelle, etc.
Mais c'est quand même aussi, Martine Cour, c'est pas seulement pour éviter d'autres explications, c'est parce que votre explication par le social permet de voir des choses ou de rendre compte de certains phénomènes qu'autrement on ne verrait ou on n'expliquerait pas.
Tout à fait.
C'est pas seulement pour ne pas être psychologue.
Non, bien sûr, non, bien sûr. Je me fais mal comprendre.
Non, c'était très clair, mais c'est pour approfondir.
C'est tout à fait ça. C'est parce que je crois que ma discipline peut permettre de voir effectivement des choses qu'on ne verrait pas autrement que je veux pousser cette démarche le plus loin possible et que je trouve que c'est renoncer trop vite. Que de dire, je ne sais pas comment expliquer telle conduite par le social, donc je vais invoquer la nature, ou je vais invoquer des concepts psychanalytiques, des concepts qui ne sont pas ceux de ma discipline.
Est-ce qu'on peut prendre un exemple, Martine Cour, un exemple aussi justement où vous entrez en apparence sur le terrain des autres, où il y a une disposition, par exemple, qu'on pourrait dire croire psychologique, et vous montrer en fait qu'il y a du social là-dedans. Un exemple comme ça vous vient. Je sais que dans le volume d'Enfance de classe où il y a des cas individuels, vous parlez d'un petit Iliès, c'est un chapitre intitulé La vie fragile dans un milieu très modeste. Là, peut-être, il y a aussi des dispositions, on a envie de dire il est comme ci, il est comme ça, et vous montrer que c'est son milieu social qui...
Alors, pour répondre à votre question, je vais mobiliser un autre exemple qui est l'autre sur lequel j'ai travaillé dans cet ouvrage, qui est un petit garçon que j'ai prénommé Thibaut, qui est un enfant d'agriculteur et dont j'essaye de montrer comment s'est construite socialement ce qu'on pourrait qualifier sa timidité.
Sa timidité, je me souviens très bien de ce passage.
Et alors voilà, typiquement, la timidité, c'est quelque chose qui est aisément interprétable et couramment interprété en termes de disposition de personnalité, traits de personnalité.
On dit qu'un tel est timide et l'autre pas, on attribue ça à l'individu.
Voilà, et à sa psychologie, voilà. Et j'essaye de montrer, alors je ne sais pas jusqu'à quel point ça marche, mais j'essaye de montrer que ce qu'on nomme timidité, en fait, ce sont justement des conduites, des manières de faire de cet enfant, ce que vous appeliez tout à l'heure des pratiques, et j'essaye de le décrire, c'est le fait que, par exemple, c'est un enfant qui ne dit pas bonjour, c'est moi qui ai fait l'enquête, qui ne me dit pas bonjour, même quand ses parents le demandent de le faire.
Au-delà de la première fois, les autres,
voilà,
vous l'avez vu souvent,
voilà.
Et il ne vous a jamais jamais dit bonjour.
Non, voilà, il n'a pas l'habitude de dire bonjour. Il ne me regarde pas dans les yeux, il ne me sourit pas. Il y a toute une série de choses comme ça. Il ne me parle pas, évidemment. Enfin, ça va avec.
Évidemment, c'est la première chose. Ça va pas de soi, quand même.
Mais en disant comme trait de timidité.
Ouais.
Alors, je le vois par rapport à moi. Je vois toutes ces choses-là. Je vois sa mère me décrit effectivement toute une série d'autres conduites qu'elle qualifie elle de signe qu'il est timide. Donc, ces conduites sont le signe d'une naissance ou d'un trait de personnalité. Et j'essaye de montrer qu'on peut analyser ça non pas comme... Les conduites sont indéniables, mais qu'on peut l'analyser non pas comme le produit d'un trait psychologique, mais comme le produit d'apprentissages spécifiques, soit qui n'ont pas été faits, soit qui ont été faits d'une manière particulière. Et de fait, ce que je constate, c'est que ses parents ne lui ont jamais véritablement appris les gestes de la civilité. Ne lui ont pas ce qu'on voit faire dans d'autres milieux. Par
dans d'autres milieux, on dit bonjour à la dame.
On dit dire bonjour à la dame et on ne cède pas. Tu dis bonjour à la dame, enfin, c'est rarement dit de manière aussi autoritaire que ça, mais où on amène l'enfant à faire le geste, voilà, effectivement.
On a tous entendu « dis bonjour à la dame ».
Voilà, mais ces parents-là disent, eux ils disent « dis bonjour à la dame » parce qu'ils veulent que leur enfant soit poli, mais l'enfant ne dit pas bonjour et on en reste là. Et il ne lui explique pas non plus l'intérêt que ça peut avoir, de pourquoi est-ce qu'il faut dire bonjour à la dame. Il ne lui montre pas, il ne lui apprenne pas des gestes. J'essaye de montrer que ce qu'on appelle de la timidité, en fait, c'est des gestes, c'est des manières de faire qu'il faut regarder quelqu'un dans les yeux quand on lui parle. Il y a des familles où les enfants, on apprend ça aux enfants assez vite, assez tôt, qu'il faut sourire, mais que c'est agréable de sourire à la personne, qu'il faut faire la bise. Ces gestes de la civilité, ce petit garçon-là ne les apprend pas. Bon, et puis j'essaie de montrer aussi d'autres choses, qu'il a jamais été confronté à des adultes autres que ceux de sa famille. Toute sa sociabilité se fait autour de ses grands-parents, ses parents. Il a jamais été gardé en nourrice, il va jamais dans les familles des autres enfants, bon, pour des raisons qu'on peut aussi analyser. Et du coup, il n'est jamais mis en situation d'apprendre à interagir avec un adulte qu'il ne connaît pas. Et c'est ça qu'on appelle de la timidité, mais en fait, j'essaye de montrer que c'est un produit de cette socialisation.
Et donc, au fond, en montrant que cette timidité n'est pas, ou pas seulement, en tout cas, un fait psychologique, vous voulez montrer aussi qu'il y a des mécanismes sociaux qu'on ne voit plus, qui produisent des différences entre des enfants, des différences qui ensuite vont devenir des gouffres, vont devenir des barrières sociales, vont empêcher d'autres pratiques, vont empêcher ce qu'on appellerait des pratiques aussi de justice, des reconnaissances, de l'égalité, vont être des barrières aussi à la reconnaissance sociale. Ces pratiques étant social, ont aussi des effets sociaux.
Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites, à savoir que beaucoup de ces pratiques sont invisibles et que c'est bien, enfin, le travail des sociologues est d'essayer de les rendre visibles. Elles sont invisibles aux yeux des parents eux-mêmes. Elles sont difficiles aussi à percevoir par un observateur extérieur qui regarde pas les choses de près. Mais pour être invisibles, elles n'en produisent pas. Enfin, n'empêche qu'elles ont des effets. Et effectivement, c'est à travers des choses comme ça que se construisent bonne part des relations avec autrui, des relations avec les autres enfants, des relations avec les adultes, avec les enseignants.
Alors voilà le cadre général par lequel la sociologie des enfants semble nécessaire pour les comprendre. On va discuter ensuite aussi de la situation où nous sommes aujourd'hui dans la France de 2019 et aussi de la nécessité de ces approches pour répondre à des défis contemporains. Mais entre ces deux discussions, on va se situer dans une époque historique récente, mais pas tout à fait, avec la musique que vous nous avez proposée, Martine Cour. Thank you.
Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, les enfants, ce soir avec Martine Cour, maîtresse de conférence en sociologie et tout spécialement en sociologie des enfants, le livre qu'elle a publié à la Découverte et avec laquelle nous parlons de la diversité des enfants approchés par la sociologie et en particulier dans notre société aujourd'hui en France au début du 21e siècle, Martine Cour. Et pourtant, on a l'impression que la musique qu'on vient d'entendre est complètement éloignée de notre sujet, mais c'est la musique d'un film déjà d'il y a, je sais pas, 60 ans à peu près. Martine Cour, est-ce que vous pouvez nous rappeler lequel et comment vous le connectez à votre réflexion sociologique sur les enfants?
Alors c'est moins ancien que ça, ça date de 1975 ou 76, je crois, quelque chose comme ça.
C'est L'Argent de Poche, vous m'avez dit ?
Alors c'est L'Argent de Poche.
Ah, je confonds avec Les 400 coups.
Ah non, non, c'est L'Argent de Poche.
Ah oui, L'Argent de Poche, c'est un film des années 70 en fait.
Voilà. Et alors c'est un film qui se trouve que j'ai revu récemment, qui raconte en fait l'histoire d'un petit groupe d'enfants qui sont tous des garçons, qui vont dans une école non mixte, qui est encore une école de garçons. Et ils sont en dernière année d'école primaire, donc ils ont à peu près 12 ans, et on va les suivre pendant toute une année scolaire, et ainsi que leur instituteur, qui est un personnage important du film. Et alors j'ai revu ce film récemment et j'ai trouvé qu'il était intéressant d'un point de vue historique, même s'il n'est pas si ancien que ça.
40 ans, c'est déjà pas mal. Moi, je sais pas pourquoi j'ai confondu avec les 400
coups. Oui,
c'est
les deux sur l'enfance. Et il est intéressant parce qu'il me semble qu'il montre deux évolutions importantes dans le rapport des adultes aux enfants. La première, c'est on voit la montée en puissance dans les années 70. Alors ça avait déjà débuté avant, mais les années 70 renforcent ce processus ou l'accélèrent. La montée en puissance d'un intérêt pour la psyché de l'enfant, pour la psychologie de l'enfant. Et on le voit à plein de moments dans le film.
Par exemple
Alors, par exemple, c'est presque caricatural, l'instituteur qui est joué par Jean-François Stévenin va avoir un enfant lui-même à la fin du film, un bébé, et sa femme allaite le bébé, et la mère qui allaite, et le père qui lit à sa femme un ouvrage de psychologie dont je pense que c'est Bettelheim, je suis pas tout à fait sûre.
C'est ça, donc aucun parent aujourd'hui n'est dispensé de lire des livres de psychologie de l'enfant, ça c'est vrai. Comment élever son bébé?
Voilà. Et il lui lit des choses sur l'impact de l'allaitement sur la psychologie de l'enfant et pourquoi il faut tenir le bébé comme ci ou comme ça, parce que ça va conditionner toute la structuration psychologique du petit. Donc voilà, il y a ça. Bon, l'objet même du film, c'est l'intimité des enfants, leurs états d'âme. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'on voit bien. Et l'autre évolution qu'on voit bien aussi dans le film, c'est la montée en puissance de l'idée que les enfants ont des droits, qu'ils doivent être écoutés, qu'ils doivent avoir voix au chapitre dans des relations plus égalitaires avec les adultes.
Alors chez Truffaut, il y a d'ailleurs aussi les 400 coups, mais il y a aussi l'enfant sauvage, Victor de l'Aveyron. Là, cet instituteur dont vous parlez, au début du 19e siècle, c'est celui qui rencontre un enfant sauvage, qui veut en faire un être social. Ouais. Et là, pour vous, ça doit être aussi quelque chose de très passionnant, cette figure de l'enfant dit sauvage, qu'on met dans la société, cet imaginaire aussi de l'enfance entre nature et culture en permanence.
Du coup, je suis en train de réaliser quelque chose qui est paradoxal, mais c'est que il y a l'enfant sauvage, enfin le film qui est comment dire, qui est une espèce de plaidoyer sur l'éducabilité des enfants et donc un peu le poids du social dans la vie des enfants. Et en fait, paradoxalement, je suis pas spécialiste d'analyse filmique et j'ai pas fait une analyse très très poussée choses.
Mais une conversation entre spectateurs de cinéma, disons.
Mais paradoxalement, L'Argent de Poche, en fait, ne montre pas tellement cette dimension sociale des enfants. C'est un très bon film pour plein d'aspects, mais c'est pas un très bon film sociologique. C'est-à-dire qu'on sait pas trop d'où viennent les enfants en termes de classe sociale. On sait qu'on connaît le métier de leurs parents, mais Truffaut n'en fait rien. Il y a pas de description des différences de mode de vie des enfants. Il n'y a rien sur les rapports de domination entre enfants. Donc voilà, la dimension proprement sociale et notamment des inégalités sociales entre les enfants, elle est très absente de L'Argent de Poche.
Comme quoi, vous avez aussi le regard de votre discipline sur le cinéma et c'est très, très instructif, Martine Cour. Alors justement, vous avez écrit ce livre Sociologie des enfants pour délimiter les paramètres qui font de nous des, qui construisent socialement les enfants. Il y en a plusieurs. Il y a la famille. Il y a l'école, il y a les pratiques sociales diverses et variées, il y en a un certain nombre. Ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas un seul cadre de socialisation, il y en a plusieurs. Vous avez participé aussi à ce recueil récent dirigé par Bernard Lahire, Enfance de classe, où il insiste beaucoup aussi sur l'idée qu'il y a des conditions de socialisation plurielles, qu'on, évidemment, de nouveau, la famille, l'école, mais tous ceux qui ont des pratiques avec les enfants, la crèche, les pratiques sociales. D'un livre à l'autre, d'abord, Martine Cour, bon, vous venez de parler des années 70, de votre livre qui dessine le cadre à cet état des lieux en 2019 dans Enfance de classe. Qu'est-ce qui vous a surpris dans les enfants en France aujourd'hui, dans ces socialisations? Le terme enfance de classe dit qu'il y a de nouveau des groupes qu'on peut et qu'on doit sans doute distinguer, qu'il y a des gouffres qui se creusent.
Alors, il y a de mon point de vue à moi, même si le premier livre, je l'ai écrit seul, alors que le deuxième est un ouvrage collectif. De mon point de vue, il y a une continuité dans la démarche entre les deux livres, notamment dans le projet qui est de montrer les inégalités entre les enfants.
La question de l'inégalité,
finalement. La question de l'inégalité, qui n'est qu'une des dimensions du livre de 2017, mais qui par contre est complètement au cœur de l'ouvrage de 2019, Enfance de classe. C'est vraiment le projet là, c'est vraiment de montrer les inégalités et de les montrer de la façon la plus incarnée possible. Donc le livre est écrit en grande partie sous forme d'une série de portraits d'enfants de milieux sociaux très différents.
Ça, toute une première série de chapitre qui est vraiment rangé selon les classes sociales.
Voilà. Alors dans le repère, j'avais de 2017, j'avais traité cette question-là des inégalités en mobilisant d'autres travaux que les miens surtout, et en mobilisant beaucoup d'enquêtes statistiques qui montrent les inégalités sociales alors dans tous les domaines, donc tant dans l'enfance, dans le domaine de la santé, de l'éducation évidemment, des loisirs, etc. Ces statistiques, elles existent, donc j'ai essayé d'en faire une synthèse, mais ce qui manquait peut-être, c'était de donner à voir ces inégalités entre les enfants, vraiment de les donner à voir et à saisir de façon incarnée, de donner à voir ce que ça fait, les inégalités, ce que ça fait aux enfants, ce que ça fait au corps, ce que ça fait aux manières de...
Sur ce qu'on appelle des cas individuels, avec des rencontres, avec des enfants finalement.
Voilà, d'où ce choix d'une écriture par portrait très long qui permet de montrer ça. Et donc c'est des portraits qui ont été, donc c'est des enfants qu'on a rencontrés dans tous les lieux de l'espace social, enfin pas dans tous, mais on a essayé de diversifier le plus possible les lieux de l'espace social. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a pu nous surprendre, je vais répondre de manière individuelle, mais je pense que c'est assez partagé, c'est l'ampleur en fait de ce qu'on a pu observer, à la fois l'ampleur des inégalités et leur côté multidimensionnel. Je pense qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que ce soit
à ce point.
Voilà. Mais c'est le fait d'avoir pu travailler de manière vraiment approfondie sur des familles qu'on a vues plusieurs fois, sur des enfants qu'on est allé observer en classe. C'est vraiment le fait d'avoir pu faire ce travail qualitatif très approfondi qui, je pense, nous a permis...
C'est ça la grande surprise du livre. Alors, là aussi, le livre, comme le vôtre, ce livre collectif est très précis. Ils entendent par inégalité, non pas n'importe quelle différence, mais les différences d'accès possibles à des biens sociaux, à des choses que tout sujet peut désirer vitalement. D'ailleurs, il y a de nouveau quand même, c'est pas forcément contre le biologique, ça produit du malheur, ça produit des corps peut-être plus petits, des mortalités plus jeunes, ça se traduit quand même dans le biologique. Mais il y a une différence quand même normative, il y a une critique sociale. Vous avez quand même dans l'idée que parler des enfants, il ne faut pas seulement examiner leur fragilité psychologique, leur contexte d'engendrement, le droit de la filiation, mais aussi les conditions de vie.
Alors, peut-être pour faire le lien avec ça, la question d'actualité, d'extension de possible de la PMA,
des modes de famille, la diversité des modes de filiation, procréation assistée.
Alors, il me semble que cette question-là, en fait, ce projet de loi, il met dans le débat public. Deux choses. Enfin, d'abord, la question de la socialisation des enfants. Est-ce qu'un couple de femmes peut éduquer correctement un enfant? Et puis, il met aussi dans le débat public la question des inégalités. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant élevé par un couple de femmes a les mêmes chances qu'un enfant élevé par un couple hétérosexuel? Est-ce qu'il ne risque pas de...
Est-ce que ça risque, handicapé,
voilà, finalement. Est-ce que ça ne risque pas de lui porter préjudice?
Toujours avec cette définition de l'inégalité, c'est-à-dire de l'accès à un bien.
Voilà.
Un même bien social, dans à un moment donné.
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, ce que répondent les opposants à la PMA, par exemple, c'est qu'il ne faut pas y aller précisément parce que ça va porter préjudice à l'enfant, avec des études qui ont pu être, des pseudo-études qui ont pu être faites, prétendant montrer que les enfants de couples homosexuels auraient plus de...
Donc eux aussi, finalement, se réclament de l'égalité-inégalité. Tout le monde fait de la sociologie des enfants, alors, finalement, Martine Cour.
En fait, là où je veux en venir, c'est que par rapport à ça, il me semble que peut-être qu'en tant que sociologue, on peut se saisir de ce moment d'actualité pour dire, puisque nous sommes en train de parler collectivement, publiquement, de ce qui est bon ou mauvais pour les enfants, de ce qui est bénéfique pour eux, de ce qui leur porte préjudice, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que ce qui est bénéfique ou préjudiciable aux enfants, d'abord et de manière massive, c'est les inégalités économiques et sociales. Et ça, contrairement à ce qui a pu être fait dans des pseudo-études sur les couples d'enfants homosexuels, ça, c'est avéré, c'est documenté, etc.
Ça n'a pas disparu, au contraire, ça se creuse peut-être en ce moment.
Et alors, c'est pas pour dire qu'il faut pas poser la question des effets spécifiques des diverses formes de vie familiale. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas poser la question, c'est pour dire si on pose cette question de ce qui est bon ou préjudiciable aux enfants par rapport à leur avenir, par rapport à leur bien-être, par rapport à leur développement cognitif, etc. On ne peut pas faire l'économie de poser la question en termes d'inégalité économique et sociale.
Et finalement, c'est ce que vous faites aussi, Martine Cour, sur un autre sujet très proche, à la frontière de toutes ces questions, qui est la question dite du genre. Vous travaillez vous-même, à titre personnel, beaucoup sur la construction sociale des identités sexuelles, disons, des identités qu'on peut dire aussi de genre, quand justement on veut montrer leur dimension sociale. Là aussi, il y a beaucoup de malentendus, parce que, en fait, votre but reste celui que vous venez de dire, c'est de montrer comment il y a des modèles qui se construisent et qui peuvent engendrer des inégalités, voire des discriminations. C'est un but aussi qui est social de bout en bout, j'allais dire, de façon cohérente.
Oui, et c'est vrai que sur la question des différences entre filles et garçons pendant l'enfance, la question qui, peut-être parce qu'elle a été là aussi beaucoup traitée par des psychologues, mais aussi du côté de certains sociologues, de beaucoup de sociologues, elle a longtemps été traitée en posant la question de la construction de l'identité. Comment est-ce que...
Mais moi, je l'ai dit en passant.
Voilà. mais c'est une approche psychologique qui me dérange pas du tout quand elle est faite par
domaine,
des...
Ouais.
Voilà. Qui me gêne davantage quand c'est de mes collègues sociologues qui reprennent cette problématisation-là sans faire autre chose. Et encore une fois, cette problématisation a son intérêt. Mais il me semble qu'en tant que sociologue, on peut faire autre chose qui consiste à s'interroger sur, non pas sur la construction des identités, c'est-à-dire comment est-ce que les enfants apprennent à se définir comme des filles ou comme des garçons, mais à raisonner dans ce qu'on appelle en sociologie en termes de disposition, c'est-à-dire comment est-ce que les enfants apprennent à agir, penser, percevoir d'une manière déterminée. Comment est-ce qu'ils construisent des goûts spécifiques, encore une fois, des manières de tenir leur corps spécifiques, des centres d'intérêt particuliers, etc.
Alors vous dites par exemple que dès l'école maternelle, vous montrez qu'on, pour les petits garçons, on valorise l'effort physique, le sport, pour les petites filles, leur goût pour la beauté, pour l'habillement, etc. Donc c'est ce genre de façon de se rapporter au monde qui ne sont pas valorisées de la même façon.
Voilà, tout à fait. L'exemple du corps est très 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 parlant parce que ça permet de voir que ce qui s'apprend pendant cette socialisation qu'on appelle socialisation de genre, c'est pas des choses abstraites, c'est des choses très concrètes. C'est par exemple des manières de tenir son corps, des manières de le percevoir, des manières de le traiter, etc. Et raisonner comme ça, il me semble que ça permet davantage de voir que ce qui se construit dans la socialisation de genre, c'est des inégalités justement. C'est pas que de la différence. Tant qu'on raisonne au niveau des identités, il me semble qu'on montre la construction de différences. On peut montrer que c'est un construit social, mais on montre la construction d'une différence. Par contre, quand on raisonne sur des pratiques, on voit plus facilement que ce qui se construit, c'est des inégalités. C'est-à-dire que, donc, par exemple, dans les manières de tenir son corps, eh ben, y a des manières de tenir son corps masculine et féminine qui sont des ressources inégales, qui n'ont pas la même valeur sociale. Enfin...
Et alors, que nous propose la sociologie? Malheureusement, ça va trop vite et ma question va être sommaire, Martine Cour, mais que nous propose la sociologie pour remédier aux dangers qu'elle pointe? Le psychologue propose des remèdes contre les pathologies psychiques, le juriste propose des cadres pour penser la famille. Que propose la sociologie contre cet ébranlement, finalement, des relations entre les enfants que produisent ces inégalités, ces gouffres sociaux qui se creusent à nouveau? Est-ce que les politiques devraient écouter plus les sociologues et qu'est-ce qu'ils devraient en conclure?
Est-ce que les politiques devraient écouter plus les sociologues? Je pense que oui. Et l'ouvrage dirigé par Bernard Lahire.
Là, on voit bien que la dimension sociale est souvent méconnue, que les sciences sociales sont, quand elles explicitent justement leurs objets, leurs présupposés, nous font voir des choses.
L'ouvrage dirigé par Bernard Lahire a été écrit, en tout cas je pense que c'était son intention beaucoup à lui et nous l'avons partagé, l'ouvrage a été écrit par 17 collègues. C'était effectivement, entre autres choses, d'être lu au-delà du cercle académique et d'être lu notamment par le politique,
les responsables,
au sens large, voilà. Donc oui, pour répondre à cette question-là. Quant à savoir ce qu'il devrait faire, je vais pas me défausser. Je vais simplement.
Merci.
Non, mais je vais simplement dire que, à mon avis, c'est une question qui relève d'une autre sociologie que celle que je fais moi et sur laquelle je suis pas compétente. Ça relève d'une sociologie des politiques publiques, en fait, qui existe, pour le peu que j'en connais, qui est intéressante, qui peut apporter des réponses à ces questions-là. Mm-hmm. Mais je suis pas assez spécialiste pour en parler
des politiques publiques de l'enfance en particulier, puisque l'un des effets de cette sociologie des enfants que vous défendez, dont vous créez aussi la discipline en quelque sorte, c'est aussi de dire il y a là quand même quelque chose de très particulier, quelque chose sur quoi justement on peut et on doit agir, non pas pour transformer une nature, mais pour corriger des problèmes sociaux, des injustices. Est-ce que pour vous ça reste un moment critique, l'enfance ?
Absolument, oui, bien sûr, ça reste c'est le moment critique. Alors, il s'agit pas non plus de dire que tout se joue avant 6 ans, mais
on a une responsabilité particulière.
Voilà, une des choses qu'on montre, j'espère, dans Enfance de classe, c'est pas que tout se joue avant 6 ans, mais en revanche, c'est tout ce qui se joue avant 6 ans, c'est-à-dire l'importance des choses qui vont déjà être construites à cet âge-là, puisque l'enquête porte sur des enfants de 5-6 ans. Tout ce qui se construit en amont sur le plan du langage, sur le plan de la culture, sur le plan du rapport aux autres, de plein de façons différentes. Donc oui, bien sûr que l'enfance, c'est dans la sociologie que je pratique quelque chose d'un moment absolument, absolument clé. Et qui du coup peut être doit, je me fais normative pour le coup, mais vous m'avez
presque forcé,
doit être l'objet de politiques multiples, de politiques du logement. On montre dans le livre l'impact que peuvent avoir les conditions de logement sur les conditions de vie des enfants, des politiques éducatives évidemment, des politiques familiales, des politiques de santé. Enfin, ça touche à quasiment toutes les politiques publiques, la question des enfants.
Merci beaucoup, Martine Cour, de cette conversation.
Merci.
Matière à penser, les enfants, et ce soir, vous l'avez entendu, la sociologie des enfants avec Martine Cour, avec et grâce aussi à Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain pour poursuivre dans cette direction avec Stéphane Beau. À demain.